êtes attendu à la dernière nouvelle.
L'Insider Hockey. Aux quatre coins de la ligue, tout le monde lui parle. Puis il fait parler tout le monde.
The one, the only.
L'Insider Hockey. Renaud Lavoie.
T'es-tu remis de ta journée d'hier, Renaud?
Oh oui! Écoute, hier, là, il faisait tellement beau. Je pense que tout le monde a apprécié le fait qu'on était gâtés d'être là, gâtés d'avoir une journée parfaite. Il n'y a pas une autre façon de le dire. Honnêtement, les Canadiens ont fait un job incroyable avec les joueurs qu'ils nous ont présentés, les dirigeants. Tout le monde était disponible, là, évidemment, qui avait été demandé par les membres des médias. Donc, moi, je trouve que ça a été, ça roulait rondement. Puis, c'est difficile de demander mieux pour être très honnête avec toi.
Ben ouais, puis tu sais, honnêtement, tu regardes ça, tout le monde a le sourire d'en face parce que la bonne humeur est au rendez-vous. Il y a un buzz, ouais. Tu sais, c'était bien plein de sandales pour les matchs des recrues. Puis, Kent Hughes a fait des acquisitions quand même assez flamboyantes. Fait que c'est intéressant. Puis, tout le monde a de l'anticipation. Ben, à commencer par le capitaine hier qui, encore une fois, a mis la barre assez haute pour la prochaine saison. Nous, on est une équipe de série.
Ouais, ouais.
Oui, et ce que j'ai aimé, c'est que lui ne se gêne jamais là, pour dire, écoute, moi, voici à quoi je m'attends, puis voici ce qu'on veut, etc., etc. Mais moi, ce que j'ai encore plus aimé de Nick dans sa façon de parler, c'est que il s'est mis des objectifs aussi personnels très élevés. C'est quand il dit, moi, je veux faire partie de l'élite, je veux faire partie des meilleurs, je pense qu'il est rendu là dans sa carrière pour dire aussi qu'il y a des Jeux olympiques qui s'en viennent, je suis convaincu que pour lui, c'est très important. Autre point. L'an passé, Nick a 89 points. OK, 89 points. Excusez-moi, j'ai le fameux chat dans la gorge. 89 points, c'est quand même une excellente saison.
Ben oui.
Ben oui.
Moi, je pense qu'il va encore en donner plus et il sait quelque chose par rapport à cette saison, par rapport à l'an dernier. Puis ça a été la dernière question que je lui ai posée dans l'entrevue que j'ai faite avec lui hier, c'est son camp d'entraînement, le trio au complet, ça a été des matchs préparatoires où on ne voulait pas les jouer. On ne voulait tout simplement pas être là. Mais ça a fait en sorte que ça a été un début de saison, un premier mois et demi difficile
tout
pour
croche.
Ce trio-là.
Absolument.
C'est ça.
Ouais.
Ah pour Nick Suzuki, pour l'équipe.
Ouais.
Pour l'équipe. Puis Nick ne s'est pas défilé à la question que je lui ai posée. Il a dit, c'est un camp extrêmement important pour moi et je dois avoir un camp très relevé. Puis ça, les gars, c'était pas des paroles en l'air quand c'est Nick Suzuki qui les dit. Ça veut dire qu'il a réfléchi à tout ça, réfléchi à ce qui s'est passé l'an dernier. Moi, je me rappelle de Nick, avant le début des matchs préparatoires, je lui avais posé des questions sur les fameux matchs préparatoires, puis il m'avait dit à quoi ça sert. Là. Tu voyais que dans ses yeux, il y avait, je veux pas dire pas d'intérêt, mais il n'aimait pas ça jouer ces matchs-là.
Ça sert à préparer la saison, Renaud, tabarouette. Je sais que ça fait chier les jouer, mais en même temps, il faut que tu te prépares pour la saison régulière. Puis l'année passée, on s'en est parlé. Tu sais, on était avec nous autres. Le Canadien n'était pas prêt de débuter la saison.
Ben non, du tout. Puis ça commence aussi, que tu le veux, que tu le veuilles pas, avec le capitaine. Mm-hmm. Tu sais, c'est lui, les matchs préparatoires, la façon dont il les jouait, ça n'avait pas vraiment d'intérêt, ben c'est sûr qu'à quelque part, ça peut déteindre, non? C'est sûr que ça déteint.
Ouais.
Moi, j'en suis convaincu que ça déteint. Puis tu sais, je regarde son premier mois d'octobre, 4 buts, 9 passes, correct. Mais après ça, là, écoute, les 5 premiers matchs de novembre, c'est aucun point. On s'en va à Toronto. Le Canadien, rappelez-vous, un samedi soir, le Canadien qui perd 4-1, qui a pas touché au puck le 9 novembre. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Puis, le match suivant, c'est le lundi à Toronto. C'était un match qui était présenté en après-midi. Et on avait interviewé le dimanche Nick Suzuki à Toronto avant que l'équipe parte pour Buffalo. Puis, lui était atterré de la façon dont il jouait, de la façon dont l'équipe jouait. Aucune énergie, aucune passion dans le match face aux Maple Leafs à Toronto un samedi soir. Et il avait été très critique à son endroit. Résultat, 2 buts, 2 passes, 4 points, +2, victoire des Canadiens 7-5. Puis à partir de ce moment-là, je ne dis pas que tout a changé, mais on a senti un peu plus d'enthousiasme dans l'équipe et avec le premier trio aussi. Puis les choses ont commencé à légèrement s'améliorer pour la poussée qu'on a connue après Noël. Bref, je pense que Nick Suzuki, moi je pense, et je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'au point de vue personnel, Nick Suzuki, une saison de 100 points, je pense que c'est faisable pour lui.
Ouais, ben en tout cas, Anthony, dans les prédictions d'Assure, c'est exactement ce qu'il avait avancé.
Montre un peu d'audace, mais honnêtement, je pense que c'est tout à fait possible.
89 l'année passée, avec un début de saison, comme Renaud vient de dire, tout croche.
Ouais.
Hey, mais surtout que cette année, les gars, je vais vous nommer les premiers adversaires du Canadien, parce que, tu sais, veux pas, des fois,
c'est important.
Oui.
On commence contre les Maple Leafs de Toronto sur la route, OK, mais après ça, c'est Détroit sur la route,
le
Chicago sur la route, le Kraken à la maison pour le match d'ouverture, les Prédateurs de Nashville, on verra ce que les Rangers vont nous offrir, les Sabres de Buffalo, les Flames de Calgary. Honnêtement, le Canadien est en position pour avoir un bien meilleur début de saison.
C'est tous des clubs qui sont prenables. T'as raison.
Mais à l'an passé, là, pour les gens qui nous écoutent, commence Toronto, deux matchs en deux soirs. OK. Après ça, tu joues contre Ottawa, Pittsburgh, LA, à New York Islanders, les Rangers, les Blues. Écoute, ça a été des matchs où les Canadiens là, se sont fait rapidement remettre à leur place d'une certaine façon. Là. Oui, tu gagnes 1-0 face aux Maple Leafs de Toronto dans le premier match. Mais après ça, ça pue.
Ah, c'est à Boston. On s'est fait planter à Boston.
Ça a fini 6-4, ce game-là, c'était pas un match de 6-4.
Le premier match, Montembeau ne gaule pas sa tête. On se fait laver, là, le premier match.
48 arrêts,
il avait été exceptionnel, Montembeau, le premier match. Ça a commencé vraiment en croche. Ce cube-là n'était pas prêt. À la suite d'un camp d'entraînement où on était plus occupé à surveiller des coups vicieux qu'à préparer un club.
Avec la blessure de Laine, on s'est dit, on joue pas nos joueurs, là, faut faire attention, pas se blesser. Tout ça, on était vraiment, vraiment timide.
Oubliez pas Ridley Gregg sur Kirby Dax.
Oui. Exactement, vraiment timide. Fait que là, on a protégé nos joueurs, Renaud, puis en bout de ligne, mais ça a fait en sorte que je regrette, mais faut que ça fait chier jouer des games hors concours. Je le sais, j'en ai joué un paquet, puis des fois, ça te tente pas, mais en même temps, t'as pas le choix de passer à travers.
Puis l'autre chose aussi, dites-vous, puis ça, c'est une chose qui est importante, le camp d'entraînement qu'on a cette année, là, ça arrivera plus, là.
Exact.
Parce que à partir de l'an prochain, c'est 4 matchs réparatoires.
Exact.
Et c'est une saison de 84 matchs. J'ai hâte de voir, là, on a le temps de voir venir, on a le temps de jouer des matchs, de faire nos essais-erreurs, OK? Mais l'an prochain, tu n'as pas le temps de faire tes essais-erreurs. Tes vétérans ont un maximum de 2 matchs qu'ils peuvent jouer. Ils ne peuvent pas jouer les 4 matchs. C'est 2 maximum par joueur qui est vétéran. Après ça, bien, ça change complètement les données, là. Ça veut dire que si tu veux faire tes tests, il va falloir que tu les fasses vite. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Les camps d'entraînement vont être beaucoup plus courts. Ça ne sera pas aussi long que cette année. Malgré que c'est pas long comme à ton époque, Gilbert. T'en sais quelque chose. On va être encore plus court. Là, on a le temps de voir venir chez les Canadiens. Tant mieux. Et on a le temps de se préparer. Mais l'an prochain, vous allez voir que ça va être beaucoup plus compliqué.
Ben, tu joues à première game. S'il y a 4 games, tu joues à première. Mettons que tu es un vétéran, tu joues à première ou la deuxième, tu joues à quatrième.
Ouais.
Pour te mettre dedans, là, tu sais, puis c'est ça. Mais les gars sont tellement en forme là, que tu t'arrives à t'approcher.
Mais plutôt, par contre, ce qui est intéressant aussi, tu sais, tout va être décalé là, au moment où on se parle l'année prochaine, le 16 septembre 2026. Là, on va être sur le point de la fin du calendrier préparatoire là, parce que la saison va commencer fin septembre, là, contrairement au 8 octobre. Fait que tout va être ramené un peu plus tôt. Le tournoi de golf va être plus tôt, le calendrier va être plus tôt. Ça va être intéressant de voir comment les gars vont s'ajuster à ça. Renaud, il reste à peu près 2 minutes avant la fin de ton premier bloc. Je serais curieux de t'entendre sur notre question du jour. Selon toi, qui a le plus de pression pour la prochaine saison? Juraj Slafkovský, Samuel Montembeau, Kirby Dach ou Martin Saint-Louis?
Ben, écoute, je vais y aller avec Kirby Dach parce que lui, je veux pas utiliser sa carrière, là, mais il joue son avenir avec les Canadiens de Montréal et probablement sa réputation dans la Ligue nationale. Donc, tu sais, les 3 autres, Martin Saint-Louis, je veux dire, est en train de prouver qu'il fait des choses extraordinaires. Samuel Montembeau, je l'ai croisé hier. Écoute, c'est un gars qui a pas perdu son sourire, son enthousiasme. Il est de bonne humeur comme pas un. Puis, dans le cas de Juraj, dites-vous une chose, OK? Juraj, là, c'est le premier à ne pas être content de la façon dont les choses se passent pour lui. C'est le premier à se dire qu'il est capable d'en faire plus, d'en donner plus à l'équipe. Moi, je m'attends à ce que Juraj Slafkovský connaisse une saison du tonnerre. C'est vraiment dans mes attentes. Là, il s'est adapté au hockey nord-américain. Il n'y a pas d'excuse. Là, l'adaptation est faite. À partir de ce moment-là, ça commence le jour 1.
Ben, j'espère, parce que là, ça fait 3 ans complètes que je suis la cravate. Là.
Ben oui.
Là, c'est le temps. T'sais, écoute, c'est correct, parfait, c'est beau. Premier show total. Prouve-nous ce que t'as dans le ventre.
Faut que les bottines, comme on dit, faut que les bottines suivent les babines. Là,
mais il y a juste 21 ans encore.
Je le sais, Anthony, mais ça va être sa 4e saison. Là. C'est facile à dire, ah, faut que j'en donne plus, faut que j'aille une bonne saison et tout ça, mais t'sais, amène ça sur la glace. Là. Puis sois fâché sur la glace. Pas juste un soir sur toi. À toi et soir, qu'elle va jouer sur la hargne. Ben oui!
Mais il y a des joueurs qui ne font que parler, puis qui, dans leur quotidien, tu sais, que ça va, ça n'est pas nécessairement bien, ils s'en foutent un peu. Je pense pas qu'Urail s'en fout. C'est non. Ça la grande différence. T'es un jeune homme qui a pas besoin d'avoir la pression des autres. Il est capable de s'en mettre lui-même. Maintenant, la constance va être la chose la plus importante pour Juraj, qui est rendu dans un tournant dans sa carrière où, justement, il est encore jeune. Mais il faut qu'il amène des matchs consécutifs où il connaît du succès. Connaître du succès, ça veut pas dire amasser des points puis marquer des buts tous les soirs. C'est pas ça que ça veut dire.
Mm-hmm.
Connaître du succès, c'est jouer de la bonne façon.
Ouais.
C'est de s'impliquer physiquement énormément, de bien jouer dans sa zone défensive. Il y a plusieurs facteurs qui définissent un bon match pour un joueur.
Ouais, puis tu sais, des bons joueurs avec les Canadiens, il y en a un, puis un autre qui devrait avoir une bonne saison, c'est Lane Hudson. Il a été au cœur des discussions pour plusieurs raisons. Contrat, Olympique, Trophée Calder. À quoi a ressemblé l'été de Lane Hudson? Restez là dans 2 minutes. Quelle saison pour Lane Hudson l'année dernière. Trophée Calder, premier avantage numérique, a fait tourner les têtes. Il a même attiré les regards de l'équipe canadienne en vue des Jeux olympiques, peut-être. Mais
canadienne?
Hier, il a fermé la porte à tout ça. On le verra pas, Renaud, dans l'uniforme du Canada.
Hey, ça, là, c'est-tu une des plus grandes niaiseries qu'on peut avoir entendues au cours de l'été? Je veux dire, je comprends le père qui est frustré là, parce que son fils n'est pas invité au camp d'orientation de l'équipe américaine, là, mais... Seigneur du bon Dieu, de commencer à faire des menaces, là. Hey, ça se peut que j'ai joué et que mon fils ait joué pour l'équipe canadienne. Hey, là,
c'est une belle occasion, Renaud, de, je vais le dire en bon français, là, il a manqué une très belle occasion de se faire mailler. Je regrette. Non, mais comment tu veux que je le dise? Je ne mettrai pas de cramage par-dessus, là. Sérieux, là. Regarde.
C'est dommage parce que c'est tellement un bon kid.
Ben
c'est tellement un bon gars, Lane Hudson. Il n'a pas besoin de ça dans sa carrière, d'avoir quelqu'un dans son entourage qui fait des déclarations à l'emporte-pièce, là, qui fait en sorte que ça mette tout le monde un peu sur les dents parce que t'es dirigeant de l'équipe américaine, tu regardes ça, tu te dis, t'es pas. Puis après ça, t'es Doug Armstrong, dirigeant de l'équipe canadienne, tu te dis, tabarouette. C'est difficile à concevoir, surtout maintenant en 2025, ce genre de propos-là. Les gars sont des professionnels. Je veux dire, à quelque part, je pense pas que l'équipe américaine a quelque chose contre Lane Hudson.
Ben non.
Oui, Lane Hudson aurait dû être invité au camp d'orientation, puis je le dirais avec raison. C'est une erreur de Bill Guérin de ne pas l'avoir fait.
Mm-hmm.
Bon, mais à partir de ce moment-là, prouve ce que tu as prouvé sur la glace.
Ah ouais, tourne la page.
Mais je pense qu'il va s'en servir de motivation. Je pense que pour un partisan du Canadien de Montréal, c'est une bonne nouvelle qu'il n'ait pas été invité parce qu'il va commencer la saison avec une quête de prouver quelque chose.
Ben oui.
Ouais, exact. Puis son été, Alain, s'il y avait un joueur qui avait un teint, je te dirais, très pâle, donc qui n'a pas passé beaucoup de temps au soleil, c'est bien Lane Hudson hier. Je ne sais pas, Gilbert, si tu te rappelles de ça, mais moi, je me rappelle de Pat Burns avec les Olympiques de Hull lorsqu'il coachait l'équipe. Disait aux joueurs, il voulait pas que les joueurs, là, au printemps, passent du temps au soleil, parce qu'ils disaient que c'était pas bon pour leur game, le soleil. C'était pas bon pour jouer au hockey. Je sais pas si tu l'avais déjà entendu.
Ouais, mais c'est sûr que tu t'en vas pas, jouer au golf, la veille d'une game, whatever, des choses comme ça. Ça dépend où tu joues, là, mais. Non, mais en même temps, il a passé son été, ça a de l'air, ça a de l'air. Ouais, Lane Hudson, il patine tout le temps, puis.
C'est ça.
Vas-y, la fin, il n'a pas pris grand poids, c'était.
Mais c'est ça, c'est ça, je veux savoir, Renaud. Il a TV hier, là. Il avait l'air petit encore. Il a-tu passé un peu de temps dans le gym?
Écoute, t'as des gars qui ont un peu plus de difficulté d'autres de bâtir aussi leur masse musculaire. Mais oublie pas une chose. J'ai justement posé la question, t'as travaillé sur quoi? Travaillé beaucoup, beaucoup sur la glace, sur son patin, sur son explosion. Avait besoin de travailler là-dessus, selon lui. Ça fait partie de ses atouts, comme tu le sais. Ensuite, son lancer. Parce que son lancer n'était pas... Écoute, il arrive dans la Ligue nationale. Il n'était pas à niveau pour permettre à Martin Saint-Louis de toujours dire, hey, ce gars-là, il n'a pas le choix d'être sur mon premier avantage numérique parce que non seulement il a une vision extraordinaire, mais en plus, il peut marquer avec un lancer frappé puissant. Bon, il n'y en a pas vraiment de lancer frappé puissant. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, lui a travaillé énormément là-dessus. Il a fini la saison en travaillant là-dessus l'an dernier. Là, il a mis une emphase encore plus importante là-dessus. Mais effectivement, côté masse musculaire, on ne peut pas dire, évidemment, qu'il y a un changement de ce côté-là. Est-ce que c'est parce que, ça, c'est technique aussi, si tu te mets plus de masse musculaire, est-ce que tu vas devenir moins rapide?
Ouais.
Tu sais, ça dépend sur quoi tu travailles, comment tu le travailles. Puis ça, ça fait partie, évidemment, d'apprendre à être un professionnel et de la maturité de ton corps. N'oubliez pas aussi que Lane Hudson a, je veux pas dire une maladie grave, mais une maladie qui fait en sorte que lui, ça lui prend plus de temps pour que son corps se construisent. Donc, sa courbe de croissance était plus lente, mais pouvait quand même grandir dans un âge plus élevé que les 18 ans, 19 ans. Bref, il y a toutes sortes de facteurs qui expliquent ça. Il n'y a pas une seule raison, mais c'est sûr que pour jouer dans la Ligue nationale dans 2, 3 ans, 4 ans, Lane Hudson va avoir besoin de beaucoup plus de muscles sur sa charpente.
Ouais, en vieillissant, il va prendre un petit peu de poids. Puis il n'y a rien qui nous dit, parce que là, il a travaillé beaucoup sur son patin. Puis les joueurs de hockey aujourd'hui, là, c'est plus... Ouais. Tu sais, nous autres, dans le temps, là, on faisait du bench press puis les affaires de même. À cette heure, c'est toute l'explosion. Puis c'est beaucoup, beaucoup de bas du corps. Son gros des faux-foules, son fort des jambes. Puis probablement, c'est là-dessus qu'il a travaillé. S'il va améliorer son patin, son explosion... Et c'est pas en faisant du bench press puis des curls que tu vas faire ça, là. C'est en travaillant tes jambes, tu sais, en poussant sur le leg press, faisant des squats, des choses comme ça. Fait que, moi, honnêtement, c'est un gars qui est très, très bien suivi par l'organisation du Canadien, c'est sûr. Il va signer un gros contrat. Fait que c'est sûr qu'il est en top shape, mais de le voir, il sera jamais un monstre. Renaud, tu le côtoies, t'es là. Honnêtement, là, t'sais, moi, je l'ai rencontré souvent, puis moi, j'ai des bonnes mains, puis tout ça, tabarouette. C'est comme si je donnais la main à quasiment un enfant, là.
Ouais, physiquement, il est-tu plus gros que toi, Renaud?
Non, pas vraiment, non. mais écoute, c'est quoi le nom du gars, le joueur des Astros, Altuve?
Il est massif, Altuve, là.
Je comprends, mais écoute, là, j'étais au Yankee Stadium cette année, justement, dans un match face aux Astros. On était bien placés en avant. Tout le monde autour de moi disait que c'était impossible à la grandeur et la grosseur de ce gars-là. À son premier at-bat, Tao était sorti au deuxième lancer.
5 pieds 6, je pense.
5 pieds 6. C'est impossible qu'un gars de 5 pieds 6 la mette l'autre bord, tu comprends?
Ouais, il est bon, fait ça souvent.
Mais c'est ça aussi, Lane Hudson, d'une certaine façon. Je pense pas que parce qu'il est plus petit que moi, que ça, tu sais, je pense qu'à quelque part, faut donner les prouesses qu'il a, le talent qu'il a, et Dieu lui a donné un cadeau extraordinaire pour justement être le joueur de hockey qu'il est aujourd'hui. Il naît avec quelque chose que très peu d'athlètes ont, et surtout de beaucoup de hockeyeurs dans la Ligue nationale actuelle rêveraient d'avoir le talent de Lane Hudson.
Le IQ, Renaud, il gagne pas ses bagarres avec son tu sais, lui, il va gagner ses bagarres intelligemment.
C'est positionnement.
Il se place bien, positionne bien. Quand est-ce qu'on l'a vu dans une position vulnérable, Anthony? Quand est-ce qu'on l'a vu, Lane Hudson, dans une position vulnérable?
Ça arrive, mais c'est rare.
C'est parce qu'il y a les habilités pour se sortir de là.
C'est ça.
Tu sais, ça va arriver là, qu'il est coincé. Mais il y a tellement de mains, puis une vision du jeu incroyable qui va, plus souvent qu'autrement, faire le bon jeu pour se sortir d'une mauvaise passe. Mm. C'est ça, Lane Hudson. Et un coup de patin, une agilité que j'ai rarement vue dans l'hockey.
C'est ça. Puis là, il travaille sur ses forces. C'est important de le faire. Tu ne peux pas... Moi, je me rappelle de Piqué Souban. À un moment donné, il était avec les Canadiens, là, peut-être à une de ses dernières années avec les Canadiens, puis je lui demandais sur quoi tu travailles. Il dit, pas besoin de travailler sur mon patin. Mon patin, c'est ma force. Tabarouette. Ça a pris 2-3 ans, puis les Devils de New Jersey voulaient l'envoyer à l'attaque tellement qu'il était lent de reculons.
C'est ça. Faut que toujours tu travailles parce que la game, la ligue, c'est de plus en plus rapide.
L'avance.
Ben oui! C'est exactement ça. Ben moi, je suis même pas inquiète pour Lane Hutson. Il est très, très, très bien suivi. Puis c'est un petit gars qui est archi sérieux. Puis il va encore nous en mettre plein la vue encore cette année.
Mais j'aimerais quand même qu'il soit capable d'améliorer son lancer du poignet. Ça serait intéressant d'avoir cette menace-là.
Il dit qu'il a travaillé là-dessus.
J'ai hâte de voir.
J'ai hâte de voir parce que t'as raison. Parce que, tu sais, à la pointe.
Ça serait le fun.
Pour un one-timer, il est il est pas dangereux.
Non, mais il n'y en a plus de one-timer. Anyway. Ça, c'est pas grave.
Ouais,
là,
mais ça peut arriver. Mais un slap shot de la pointe, fois de temps en temps, qui veut percer à travers. Puis ça arrive.
Mais il y a juste à mettre la rondelle au filet. Comme Jacky l'a fait. Touche le net avec ton lancer du poignet.
Oui, mais en même temps, un slap shot, une fois de temps en temps, Tony. Ça m'a rendu. Ouais, tu as fait des slap shots.
T'es pas obligé d'avoir ça dans ton arc pour être un carrière avantage.
Je regrette. Si t'étais un défenseur élite dans la Ligue nationale de hockey, ça te prend une bonne shot. Là.
Ouais, mais c'est
Evan Bouchard, il y en a toute une shot.
Kyle McCarr en a toute une, puis il y en a toutes.
Je dis pas le contraire. Je te dis juste que si t'as un bon lancer des poignets, c'est pas grave si t'as pas un lancer frappé. C'est juste ça que je dis. Tu peux te débrouiller sans.
Ouais, pour un défenseur, correct. Oui, mais une fois de temps en temps.
Nomme-moi les meilleurs défenseurs offensifs de la ligue. Lane Hutson a probablement le pire tir là-dedans.
Oui, mais je dis pas le contraire. Je n'ai jamais dit le contraire. Je vais juste dire
y a
que c'est
amélioration.
C'est moins à la mode de voir un lancer sur réception, oui, mais de voir un défenseur qui s'installe puis qui décide
à
de
la
craquer.
Sheldon Sorry.
Ouais, exact. Ouais. On voit plus ça. Là.
Ben, on le voyait avec. Ça dépend qu'est-ce que t'as en arrière. Quand t'as un piqué Subban à la pointe, il servait de son slap shot puis on se servait de lui sur powerplay parce qu'il avait un lancer dangereux. Ça dépend qui est là. Tu vas ajuster ton powerplay par rapport à qui est là.
Markov, y avait-tu une grosse garde note?
Markov avait un excellent lancer.
Des poignets.
Il y avait un excellent slap shot aussi, là. Ah, il s'en servait pas.
Il était capable de le placer.
Ben oui.
Ah, vous êtes fatigué.
Ben non, c'est pas fatigué, Calvin, c'est la vérité. Arrête, là.
Merci, Renaud.
Salut, Rev.
Salut, Rev.
Bonne journée.
Hey, j'ai hâte à demain. On se reparle demain.
Ciao. Salut, bye bye.